RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Merci d'être fidèles au GG sur RMC, RMC Story. 3 heures de débat, 3 heures de discussion autour de l'actualité avec une nouvelle tablée de GG. Ce matin, composée de l'éditeur de bande dessinée Mourad Boudjelal. Salut Mourad.
Bonjour, bonjour.
La prof d'histoire géo, Barbara Lefebvre. Ouais. Salut Barbara.
Bonjour à tous.
Et puis le médecin généraliste Jérôme Marty. Salut Jérôme.
Salut à tous.
Ils ont commencé à me vanner avant même que l'émission commence parce que ce soir, bien sûr, il y a un rendez-vous important à suivre sur RMC. C'est le match retour entre Barcelone et le Paris Saint-Germain avec cette remontada qui pourrait être parisienne
La remontada en Verlan.
La descente d'Ada, tu vois.
Voilà, donc autant dire que ceux qui ne connaissent rien au foot, à savoir Jérôme Marty, Mourad Boudjelal
et Barbara
Lefebvre.
Ceux qui gagnent, ceux qui sont habitués à gagner.
Non, mais nous, nous, on pense que c'est beau les rêves. Il faut le laisser rêver, quoi.
C'est émouvant, même. Moi, ça m'a presque fait couler une larme ce matin quand je l'ai vu. Il y croit tellement.
Ouais.
Bah oui, parce qu'on a une revanche à prendre sur Barcelone depuis cette remontada.
Ouais, mais ça sera pas ce soir.
En 2017. Ça sera pas ce soir.
Non, ça sera pas ce soir.
Bah écoutez, rendez-vous en tout cas ce soir pour suivre le match avec nos petits camarades des sports. Et d'autant plus que l'événement ce soir, c'est Dugarry qui est de retour aux commentaires, qui va commenter le match.
Ah, j'ai cru sur le terrain.
Sur
non, parce que peut-être que là, il va faire gagner le PSG, là.
Pas sur le terrain. Pourquoi pas d'ailleurs.
Bah, mais il peut remplacer Mbappé.
Les commentaires de Dugarry ce soir pour ce match Barcelone. Paris Saint-Germain, c'est l'événement,
après,
bien sûr,
foot Paris, du jour. Ils pourront se consoler, ils seront champions de France, c'est bien, c'est rare.
Puisqu'on parle des joueurs de foot qui sont très bien payés, parfois surpayés, il y en a un autre aussi qui fait beaucoup réagir.
Il n'est pas bon au football. En fait.
C'est Carlos Tavares. Le salaire démentiel de Carlos Tavares, on parle d'une somme qui pourrait atteindre pour l'année 2023 36,5 millions d'euros. L'Assemblée Générale des actionnaires de Stellantis qu'il dirige est réuni à Amsterdam. Cette assemblée doit donner son avis, qui est non contraignant, sur cette rémunération. Est-elle, oui ou non, scandaleuse ? La parole à la défense.
RMC, les grandes gueules.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. C'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats d'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi. Hey, adieu la charrette.
Alors, c'est vrai qu'il a raison, Carlos Tavares.
En médecine qu'en cinéma.
93% de son salaire, c'est une part variable, c'est-à-dire une part variable en fonction des résultats. 93% de son salaire. C'est-à-dire, en fait, dans le détail, il a 2 millions d'euros assurés. Ça, c'est le fixe. On ajoute à ça des avantages sociaux autour de 634 000 euros.
Personnel.
Et puis, à partir de là, ensuite, il y a une part variable qui fait partie donc de sa rémunération à 93%. Comme les résultats de Stellantis qui dirige le groupe automobile sont excellents, il faut le reconnaître, eh bien, le patron de 65 ans peut toucher jusqu'à 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. En fait, c'est 23,5 millions d'euros dans un premier temps, et principalement sous forme d'actions, hein, faut le préciser. Et puis le reste est constitué de bonus qui seront attribués seulement s'il est au rendez-vous d'objectifs fixés pour 2025. Alors souvenez-vous, chaque année, en fait, au même moment, il y a une polémique autour de son salaire. En 2022, il avait touché 23,5 millions d'euros. En 2021, 66 millions d'euros. Ça, et à l'époque, d'ailleurs, le gouvernement était monté au créneau. Emmanuel Macron estimait que son salaire était excessif, Bruno Le Maire l'avait dit également, mais depuis il s'est rien passé. Alors Tavares, il dit bah écoutez, c'est un contrat. Si vous trouvez que ce n'est pas acceptable, faites une loi. Alors faut-il faire une loi pour plafonner le salaire des grands patrons? Tout d'abord, ce salaire est-il justifié ou pas? Le 32-16 pour intervenir, Mourad Boudjelal.
Moi, je suis très partagé. Je pense qu'on peut revendiquer des sommes pareilles lorsqu'on prend des risques.
un entrepreneur qui prend des risques et qui va engager ses biens, ou voire même engager ce qu'il n'a pas, et qui va, grâce à ses compétences et aux compétences de ses collaborateurs, connaître une réussite exceptionnelle, peut toucher des sommes indécentes qui peuvent correspondre quelque part à l'indécence des risques qu'il a pris. Là, on parle d'un salarié privilégié, les propriétaires de rien. Bon, il a des résultats, je reconnais Stellantis, 190 milliards de résultats. Oui. Avec une augmentation de 11% sur cette année, ce qui veut dire, grosso modo, il a ramené 20 milliards de plus. Quand on sait qu'un milliard, c'est 1000 millions, bon, 36 millions à côté, c'est un peu peanuts, on est sur une autre planète. Mais est-ce que aujourd'hui, Stellantis, qui quand même est l'association, l'union d'environ une quinzaine de marques, dont une que j'adore qui est Maserati, est-ce qu'aujourd'hui, on peut attribuer ce résultat à un seul homme ?
C'est ça.
Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'un seul homme puisse influencer le résultat d'une association de nos 15 marques. Et deuxièmement, aujourd'hui, est-ce qu'avec cette course aux primes, parce que ce sont des primes qui va toucher, dans une société où BlackRock est actionnaire, donc on connaît très bien la mentalité d'une société où BlackRock est actionnaire, même s'ils sont minoritaires, mais BlackRock, même minoritaire, fait la loi, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de retirer de la morale aux affaires ? À savoir, moi je pense qu'il y a une certaine morale dans les affaires, qu'aujourd'hui, eh oui, aujourd'hui que la course aux résultats, ça peut être au détriment parfois, il y a 36 façons de faire des résultats, ça peut être par exemple en faisant du surlicenciement, ça a été le cas, mais il y a plein de systèmes d'aller uniquement chercher le résultat, voire même, on le voit aujourd'hui, dans une grande compagnie d'aviation concurrente de Airbus, par moment, c'était au-delà de la sécurité pour aller chercher du résultat. Au-delà de la sécurité, voilà. Donc tout ça, c'est dangereux.
Il a signé un contrat, c'est ce qu'il dit.
Et entre vous et moi, je veux dire, s'il a une prime de 5 millions pour les résultats, le matin, il se lève à la même heure, quoi. C'est certain. Voilà.
Jean Marty, indécent ou pas ?
Alors, je suis
quand on dit indécent, ça veut dire qu'on met de la morale aussi.
Non, mais je suis un peu comme Mourad. Moi, je suis partagé là-dessus. Je suis partagé là-dessus parce que je crois qu'en matière de salaire ou de gain, il n'y a pas de limite et il ne faut pas qu'il y en ait.
Toi, tu veux pas de salaire plafonné.
Il faut pas qu'il y en ait de limite, parce que ça tire le
pourtant, monde. Il y a un salaire minimum en
travail,
France.
Peut te tirer très très haut.
Il y a un salaire minimum, oui, mais il n'y a pas de salaire maximum.
Il y a le minimum, mais il
n'y
a pas de maximum.
Toi, tu sauves des vies, lui sauve des actionnaires. Les salaires, c'est pas les mêmes.
Je vais y venir, c'est pour ça que je suis partagé. 36 millions, c'est annuel, c'est le salaire de 1200 infirmières.
Mais attends, tu veux que je donne un autre comparatif ? Je te donne un autre comparatif. Parce que c'est intéressant, c'est aussi comparer, il faut comparer son salaire avec ce que touche un salarié de Stellantis. En 2023, oui, il va gagner en un jour, il a gagné en un jour ce qu'un salarié de Stellantis gagne en un an. 518 fois plus qu'un salarié moyen. Donc voilà.
C'est aussi la moitié du salaire annuel.
On est bien payé à Stellantis,
Bibi. C'est aussi la moitié du salaire annuel de Mbappé.
Oui. Mais quand c'est des fouteux, ça choque pas.
Oui, non. Et puis je rappelle que quelqu'un comme Elon Musk gagne 10 millions par jour.
Oui,
par jour.
Le patron General Motors doit être mieux payé aussi.
Alors après, le côté immoral, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, il faut pas qu'il y ait de limite, mais par contre, lui peut avoir un peu d'honneur et peut, par rapport aux salariés de sa boîte, dire, moi, je me limite à tant, je prendrai pas tant, etc., quoi. Je veux dire, il y a un moment où effectivement, tu peux pas, alors que tu n'es pas le seul à décider, c'est pas vrai. Et alors que tu n'as strictement aucun risque, comme l'a dit Mourad. Ce type n'investit pas dans l'entreprise.
Non, ce type,
quand il partira, aura un golden parachute qui sera beaucoup plus cher encore beaucoup plus élevé encore que son salaire annuel. Donc il n'y a strictement aucun risque.
Alors qu'est-ce qu'on fait effectivement, alors? Parce que toi, tu veux pas plafonner, alors?
Mais on attend qu'il y ait de l'éthique dans l'entreprise, ouais. C'est ça qu'on voudrait.
On peut toujours attendre.
Mais bien sûr qu'on peut toujours attendre. Mais ça n'empêche pas que, aux Pays-Bas. Non, il y a des entreprises qui sont éthiques. Tu peux très bien avoir des patrons ou des PDG qui le sont.
Lui-même, il devrait renoncer.
Quand on le voit parler, ce monsieur, on l'a vu tout à l'heure, avec une certaine morgue, quand même, qui est intervenue, qui nous a dit, mais moi, c'est contractuel, après tout, vous savez.
Il a
pris 56% d'augmentation, quand même. Qui, aujourd'hui, en France, quelque part, dans quelle entreprise, dans quel métier, dans quelles circonstances, on peut avoir 56% d'augmentation? Ça n'existe pas.
Et puis, qui
dans la vie réelle, ça n'existe pas.
Si lui-même ne renonce pas.
Si tu veux.
Qui peut revendiquer les résultats d'une telle entreprise?
Est-ce que son entreprise a fait 56% de plus de bénéfices? Tu l'as dit, il y a eu
11%.
Il y a eu 11%. Lui, 56%. Pourquoi c'est US Delta?
Par contre, 50% en bourse
depuis un an.
Pourquoi
c'est pas un pour un à ce moment-là?
Mais 50% en bourse.
Il fait 11%. Oui, non, mais.
Ah, bah oui.
Oui, non, mais. 56% en bourse, ça prouve encore une fois que les gains des gens qui investissent en bourse sont plus importants que les gains qui font tourner l'entreprise.
Moi, je l'en veux surtout parce que
personne ne t'interdit d'investir en bourse. Barbara Lefebvre.
Vous êtes en train de vous émouvoir d'une situation qui n'est rien d'autre que l'hégémonie du capitalisme financier. aux dépens du capitalisme productif. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout anticapitaliste. Je pense que le capitalisme régulé et bien organisé, qui est tourné vers la production, ce qui n'exclut pas l'enrichissement des grands dirigeants d'entreprise, mais un enrichissement qui soit proportionné à la production réalisée. Or là, vous n'êtes plus du tout, on n'est plus du tout dans la question du capitalisme productif. On est dans le capitalisme financier qui s'auto-alimente par, en réalité, un monde parallèle qui est le monde parallèle des actionnaires et qui n'est donc absolument pas le monde ni des patrons, ni des salariés. Je rappelle quand même que une enquête a été faite auprès des patrons de TPE-PME français. 70% des patrons de TPE-PME touchent moins de 4 000 euros, moins de 4 000 euros, et 20% d'entre eux sont en dessous du SMIC, les patrons de TPE-PME. Voilà. Donc, et je pense que c'est les patrons de TPE-PME qui font vivre le tissu économique réel, du monde réel. Bien sûr, hein, Monsieur Tavares est dans le monde réel puisqu'il produit des voitures, donc évidemment, les voitures, c'est utile pour se déplacer. Mais ceci étant, ce tissu économique des entreprises qui fait vraiment vivre un territoire, c'est d'abord le tissu des TPE-PME, et eux, ils sont au chou. Et par contre, ils subissent un impôt sur les sociétés qui est largement supérieur en proportion à l'impôt sur les sociétés que ne verra jamais Monsieur Tavares pour Peugeot, qui par ailleurs fait des bénéfices pas seulement en France. Donc moi, ce que je trouve indécent, c'est le système global du capitalisme financier qui vient contredire la réalité d'un capitalisme productif qui est celui des TPE-PME.
C'est comme les grands joueurs de foot, ils ne sont pas nombreux.
Non, mais alors ça,
je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Ce sont comme les grands joueurs de foot, ils ne sont pas très nombreux. C'est-à-dire ceux qui touchent énormément d'argent.
Mais il y a une concurrence.
Ils sont quelques-uns. Et Tavares, peut-être que son salaire est indécent, mais tout le monde reconnaît que c'est un type brillant, que c'est un passionné d'automobile, hein, donc il fait ce métier pas pour rien.
Il a réussi
partout où il est passé.
D'accord. Alors, si tu me permets un petit comparatif historique,
un ingénieur centralien.
Si on pense à 1789 et à la bronca contre les privilégiés, c'est-à-dire la noblesse et le clergé en 1789, une partie de la noblesse et une partie du clergé étaient des privilégiés en termes de statut, mais c'était pas pour autant des gens très riches. Néanmoins, symboliquement, la question des privilèges était quelque chose qui devenait insupportable à la société française.
Tavares, il est tellement bon qu'il est jamais allé jouer un euro à lui. S'il était si bon que ça, au bout d'un moment, il aurait dit attendez, moi je suis le meilleur, je vais aller jouer avec mon argent pour gagner 100 fois plus.
J'ai pas pu finir ma phrase.
Chacun termine sa phrase.
Voilà, j'ai pas pu finir ma phrase. Donc je suis d'accord avec toi, c'est peut-être symbolique, mais c'est les symboles qui font souvent les conflits sociaux et qui font surtout les divisions d'une société. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y en a
c'est
peut-être
le fruit de son travail,
il y en a quatre des Tavares, il y en a deux des Mbappé, OK.
Non, attends, taisez-vous. Les nobles,
mais non, c'est pas le fruit de son travail.
Taisez-vous, Mourad. Non mais si, les nobles. Non, mais ce que Barbara nous parle des nobles, les nobles, ils travaillaient pas.
C'est pas ça que tu dis. Non, je te compare une situation.
Non, mais surtout, je n'ai pas comparé parce qu'on paye moins, c'est pas parce qu'on paye moins Tavares qu'on paiera mieux les infirmières. Oui. Il n'y a pas de lien.
On les paiera moins bien parce qu'il y aura moins d'impôts.
Si tu veux. Ce sont des entreprises privées. C'est effectivement contractuel. Alors là, ce qu'il pourrait y avoir, c'est effectivement dans un pays qui serait très interventionniste sur les entreprises, tu pourrais très bien avoir une loi qui définit les contrats, etc. Sauf que c'est des entreprises privées, donc tu ne peux pas le faire.
Excusez-moi,
mais ça serait bien qu'on applique ce système de primes à nos gouvernants. Ça ne coûterait pas cher, des primes de résultats. Ouais.
J'ai juste pas fait une comparaison par rapport au statut des privilégiés. Je dis simplement qu'à un moment donné, il y a des situations d'inégalité qui ensuite ne n'utilisent que des symboles. Voilà ça que je veux dire. Ça veut pas dire que Monsieur Tavares.
Oui, mais on trouve toujours quelqu'un plus riche que soi.
Mais Tavares ne peut pas s'attribuer à lui tout seul les résultats de Stellantis. C'est pas possible.
Non.
Il y a une histoire déjà. Il y a 15 marques de voitures qui apportent un capital, que ce soit Alfa Romeo, que ce soit Peugeot, que ce soit Maserati. Il y a une histoire. Donc déjà, il démarre avec une histoire. Ensuite, il y a un contexte. Il y a, j'imagine, des armées de collaborateurs, des armées de dirigeants. Je veux dire, et c'est un ensemble, c'est un collectif, j'ose dire, qui va obtenir ce résultat sur un marché.
Quand on l'entend parler sur sa cour d'intervention,
on a l'impression que c'est lui. On a l'impression qu'il gère une.
C'est moi.
On a l'impression qu'il gère une PME.
Oui, non, mais.
On a l'impression qu'il gère une boutique. Il dit c'est moi qui suis à la caisse et c'est moi qui fais le résultat.
Non, c'est pas lui seul. Effectivement, ce n'est pas lui seul.
Bien sûr.
Ça, c'est une évidence. Mais pour autant, On se place dans une concurrence qui est mondiale, sur des entreprises qui agissent sur le monde entier. Et effectivement, comme tu le disais, le nombre de personnes qui sont à même de diriger ces consortiums d'entreprises sont très peu dans le monde et tu as une forte concurrence entre les entreprises. Donc, c'est ça qui tire les prix vers le haut.
Carlos Ghosn, mais il a un problème de mobilité. Comme footballeur,
d'ailleurs, sur le mercato, ouais, c'est pareil. Hein.
Il y avait les mêmes polémiques sur Carlos Ghosn, hein.
Ouais.
Avant. Souvenez-vous. Et en fait, Tavares a remplacé Carlos Ghosn dans les politiques. Polémiques. Bon, est-ce que vous êtes choqués,
en fait,
vous...
ce qui nous emmerde le plus, c'est que les 36 millions soient pas nous qui les touchions.
Est-ce que vous êtes choqué par ce salaire de Carlos Tavares qui sera en discussion à Amsterdam aujourd'hui lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Stellantis, à bout de le dire? Adam et Johan sont déjà avec nous, 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le salaire démentiel de Carlos Tavares, 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Ça fait réagir les grandes gueules, Mourad Boudjelal, Jérôme Marty, Barbara Lefebvre. Ça vous fait réagir également au 32-16. Nous sommes avec Adam. Bonjour Adam.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour. Vous nous appelez de Boulogne-Billancourt, près de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Alors, comment jugez-vous ce salaire?
Moi, je trouve ce salaire indécent. Il faut savoir qu'en mars 2020, l'homme le plus riche de France disait... C'est pas une fake news. Il disait les crises nous rendent plus forts. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment la réalité. Pendant qu'on demande des efforts aux Français les plus faibles, les Français qui travaillent, eh bien, on favorise les plus riches. C'est Mathieu Pigasse qui a dit que les 500 plus grandes fortunes cumulées du pays sont passées de 200 milliards à 1000 milliards en l'espace de 10 ans. Et dans le même temps, il y a plus de 25% de Français qui sont passés sous le seuil de pauvreté.
Ah oui.
Mais est-ce que l'un est la conséquence de l'autre? Pas forcément.
Moi, je pense. Ça. Monsieur le maire veut trouver de l'argent pour enfouir les caisses de l'État et il demande uniquement aux Français les plus faibles et les Français qui travaillent de faire des efforts. S'il veut de l'argent, il faut qu'il se tourne vers ces gens-là qui ont fait des profits.
Mais il paye des impôts.
Il va payer un peu des impôts. Je crois qu'il est résident fiscal français.
Monsieur Tavares, il paye des impôts.
Il prouve qu'il n'est pas si bon gestionnaire que ça.
Comme tous les Français.
Oui, mais ce cadran.
Concentration du capital, on ne peut pas dire le contraire.
L'écart dont qu'évoque Adam, il est réel. C'est-à-dire que les crises successives, post-crise 2008, crise Covid, etc., surtout après, au moment de la crise Covid, ça a conduit à l'enrichissement outrancier d'une petite poignée. Alors bien sûr, c'est une petite poignée. Bien sûr, ils payent des impôts, etc. Non. Dans une crise, les gros maigrissent et les petits meurent. Là, les gros grossissent encore. Les gros, on continue à grossir. Mais excuse-moi, il y a un problème. Comment le CAC 40 peut se porter aussi bien en période de crise? Comment les actionnaires peuvent se gaver autant en période de crise?
Barbara, est-ce que les Français se porteraient mieux si Tavares touchait moins?
Non, mais la question n'est pas là. La question.
Bah si, parce que tu dis les gros maigrissent.
Moi, en tout cas, je me rappelle qu'en 2021, on a déjà eu cette question avec Monsieur Tavares et que Monsieur Macron avait dit ce salaire est choquant et excessif et il avait dit je propose que nous encadrions la rémunération des grands patrons, mais avait-il dit il faut l'accord de nos partenaires européens. Donc on attend toujours, comme pour tout le reste, comme pour la question de l'électricité.
Mais vous voulez encadrer, ils ne veulent pas
plafonner ces salaires.
Il ne faut pas plafonner les salaires.
Parce que c'est des entreprises privées et qu'à un moment donné, les gens font ce qu'ils veulent. Quoi, je veux dire. Après, pour entendre ce que dit Adam, une partie des résultats du groupe de Stellantis est liée à la voiture électrique. C'est un virage qui a été particulièrement bien pris et on peut l'associer, entre guillemets, à une crise dont il profite. Le changement
même
aujourd'hui.
S'il n'est pas à fond sur l'électrique.
Oui, mais c'est un virage qu'il a plutôt bien pris. Il a 37% de son chiffre.
Il défend aussi le diesel. Hein.
Voilà. Mais donc, on peut l'assimiler à une crise, quelque part. Enfin, c'est un élément nouveau dont il profite. Mais après, on ne va pas... Bon, sincèrement, moi, si demain, on a un ministre de l'économie qui nous dit, l'endettement de la France, il est passé de 120% à 20%, on peut lui filer 36 millions. Moi, Tavares, je le nommerais à Bercy, hein, s'il est aussi bon que ça.
Vous préférez Carlos Tavares à Bercy que Bruno Le Maire?
Il me semble.
Mais ça serait plus logique.
Si on a les résultats de Stellantis à Bercy, le pays ira bien.
Ça serait la logique.
Pourquoi ça serait plus logique?
Quel est le parcours de Bruno Le Maire en tant que, justement, ou chef d'entreprise, ou créateur d'emplois, ou etc.?
Aucun.
Bon. Quel est le parcours de Carlos Tavares, qui est parti d'une famille relativement modeste, avec un père, je crois, comptable, une mère prof de français, et qui a cette réussite-là, qui est, tu le disais.
Il a fait ses études à Toulouse, il a réussi à Toulouse.
Même de la réussite de l'ancien mérito français.
Tavares, je le vois pas passer à 12 000 euros par mois en tant que ministre.
Mais justement, mais à ce moment-là, on le met ministre.
On le met ministre. 36 millions.
Il s'enrichira pas par la politique.
Non.
Il aura un parcours. Souvenez-vous de Tapie, il était le seul homme politique qui disait, moi, je suis le seul homme politique que la politique a appauvri.
Ouais.
Mais un homme politique, il doit être dégagé des soucis financiers. Donc,
Tapie, Olmeda, en tant qu'homme politique, il n'a rien
preuve,
fait.
Il n'a pas de preuves à donner, monsieur Tavares. Moi, je le verrais bien, effectivement, ministre de l'économie.
Non, mais
ça me semblerait beaucoup plus logique.
Je
le sorte, qu'on le sorte immédiatement de Renault, de son entreprise.
On lui fait une prime au résultat.
Et on lui fait une prime au résultat. On lui fait une prime au résultat. Tout de suite, merci. Et qu'on mette, je propose qu'on mette monsieur le maire à la tête de Stellantis.
Ah, bah non, parce que.
Alors, par contre, si monsieur le maire est à la tête de Stellantis, vendez vos actions.
Voilà. Non, mais pour qu'on voit si immédiatement les actions baissent, ce qui serait un signe fort, quand même.
Alors, on va remercier Adam et on va prendre Johan qui est avec nous. Merci Adam. Bonjour Johan.
Bonjour Johan. Bonjour.
Vous appelez de l'Aube à Laine-au-Bois, c'est ça ? Je crois
qu'il n'est pas assez payé, Johan.
C'est ça. Oui. Alors, en partie, oui, sauf que je vais te surprendre, moi, parce que je suis. Moi, je ne suis pas choqué, en fait. Moi, ce qui me choque plus, c'est un peu la cabale qu'on a contre la réussite. Je vais vous dire, moi, ça fait 7 ans que j'ai créé ma structure. Ouais. Et si un jour j'ai ce niveau d'amélioration, j'en serais très heureux.
Oui, mais tu as créé ta structure, tu prends des risques.
Oui.
Tavares, il n'a pas créé Stellantis.
Alors, là, j'ai aussi un point. Globalement, je suis assez d'accord avec ta vision des choses. Simplement, je mettrais juste un bémol. Je pense qu'il y a deux types de patrons, si tu veux. Il y a des entrepreneurs et il y a des gestionnaires. Tavares, c'est peut-être plus un gestionnaire. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des entreprises, et tu t'en connais autant que moi, j'imagine, qui ont pu faire faillite avec leurs créateurs et qui ont prospéré qu'un nouveau gestionnaire, par exemple.
Il y a même des mecs qui sont spécialisés dans le rachat d'entreprises en difficulté, voilà, et qui les relancent.
On est d'accord. Je vais te donner un
exemple. On sait comment ils les relancent ici.
Alors, je vais donner un autre exemple un peu parlant, parce que pour le coup, il y a des réussites des deux côtés. Tu prends une boîte comme Apple. Aujourd'hui, elle a explosé en termes de capitalisation et en termes de valeur grâce à Tim Cook, qui est plus un gestionnaire que Steve Jobs, qui était lui un pur créateur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas opposer les deux. À un moment donné, il y a une réussite, tant mieux pour lui.
Je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a une prime à la création qui doit pas être la même que la prime d'un gestionnaire. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout.
J'entends ce que tu dis, mais le point, c'est que...
La création, c'est un vrai talent, quoi. C'est un vrai...
Oui, mais après, le développement aussi.
Le développement aussi, c'en est un, si tu veux. Encore une fois, t'as des entreprises qui sont restées avec leurs créateurs et qui ont coulé. Et donc, des personnes ont perdu leur emploi, etc. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que simplement, il y a une réussite, c'est un contrat privé, il a une mission à réaliser. S'il a réussi, tant mieux pour lui. Je vois pas pourquoi on irait encadrer ça. Enfin, honnêtement...
Mais la question, Johan, que beaucoup de monde se pose... que moi je me pose, c'est que fait-il de tout cet argent ? Parce qu'il touche cela chaque année.
Et s'il y en a trop, on peut l'aider à le dépenser, il n'y a pas de problème.
66 millions en 2021, 23 en 2022, et là donc autour de 36. Parce qu'une fois que tu t'es acheté 10 baraques, hein, tu vas pas t'en acheter 10 chaque année. Une fois que tu as fait plaisir à tes enfants, tu les as mis à l'abri, une fois que tu as créé ta fondation, et que bon, t'as un train de vie qui est confortable, t'as un jet, t'as du personnel, mais bon, forcément il t'en reste beaucoup à côté. Donc est-ce qu'il a besoin d'autant d'argent ? Et moi, je me demande si on n'est pas dans l'ego. C'est-à-dire que Tavares, il doit se dire, si je touche moins que mes camarades américains, je ne suis pas dans le game.
Mais parce
donc,
que
on est un peu dans une bataille d'ego aussi.
Je pense que nous discutons d'un monde que même Mourad, qui pourtant a fréquenté des gens fortunés, on n'est même pas dans ce monde-là. Le monde des Musk, des Jeff Bezos, des Tavares, des
Bezos, Musk, c'est pas le même niveau.
C'est
la Ligue 2 par rapport
à Bezos. Oui, mais ça reste quand même un monde, les Bernard Arnault, les Betancourt, etc.
C'est un autre
monde, c'est un monde parallèle. Ces gens-là, excusez-moi, c'est un monde parallèle. Ils ne savent peut-être même pas que le salaire moyen en France, c'est 2630 euros net. Ils ne savent pas ça. 630 euros net, eux, c'est comme donner un pourboire. Donc, je veux dire, on discute de gens qui sont sur une autre planète. Voilà.
Donc, et cette planète-là, gagner de l'argent, ça va pas devenir un délit.
C'est le capitalisme financier, c'est tout. Je n'ai pas dit que c'était un délit, je dis que c'est une autre réalité.
Revenons sur Tavares.
C'est un monde parallèle.
Ce que je reproche, moi, à ce système financier, c'est qu'en fait, ils peuvent que gagner. Parce que si son entreprise, tout d'un coup, perd de l'argent,
il sera viré.
Lui, il va partir avec un golden parachute.
Oui. Ah oui.
Donc il va gagner encore plus. Donc il n'y a pas de risque. C'est pas des capital risqueurs. Il y a aucun risque. Il ne peut que gagner. C'est tout le temps.
Mais moi, ce que je reproche, c'est que sur les 189 milliards de résultats qu'il a fait, il a surtout fait gagner de l'argent à des retraités en Floride.
Ça s'appelle le capitalisme financier.
Mais alors ça, pardon, je suis désolé, rien n'empêche Barbara Lefebvre d'avoir des actions. Parce que j'adore, on tape toujours sur les actionnaires. Mes actionnaires, c'est vous et moi. Rien ne t'empêche, Barbara, même avec un salaire de prof, d'acheter quelques actions de Stellantis et d'en profiter.
Le fonctionnement du capitalisme financier par actionnariat, etc., tel qu'il était au 19e siècle, ça permettait précisément, d'ailleurs, parfois, à certaines petites classes moyennes d'aller acheter des actions, etc. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une une autre dimension. Comme le dit Mourad, c'est pour les BlackRock, c'est pour les grands fonds de pension.
Mais non, c'est pas d'accord.
Ce n'est pas pour les petits actionnaires. Non, et moi, justement, alors aujourd'hui, dans le système de ce capitalisme financier que je déteste, je ne vais certainement pas aller acheter des actions parce que d'abord,
parce que
les actions que je vais acheter,
gère mieux.
Je vais en acheter deux ou trois parce que j'aurais pas les moyens d'en acheter beaucoup. Et pour aller engraisser Monsieur Tavares, ça me ferait bien mal.
Si on avait confié nos retraites en partie à ce capitalisme aujourd'hui,
ça va venir,
les Français auraient de meilleures retraites.
Olivier, ça va arriver. Calculé. Hein.
Non, on fait confiance à l'État pour gérer notre argent.
Tu crois que la petite classe moyenne américaine, tu penses qu'elle a des retraites à s'éclater le ventre? Non, je crois pas. Moi, je pense qu'aux États-Unis, tu vois même maintenant en Allemagne, où on n'est pas sur le système de retraite par répartition, où tu as des retraités qui travaillent, qui se remettent à avoir des jobs. Et moi, je connais dans d'autres pays, des pays qui fonctionnent sur le même type de système hyper capitaliste, où des gens de 70, 75 ans se remettent à travailler parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre à la fin de leur vie. Donc, excuse-moi, et pourtant, ils ont travaillé toute leur vie. Donc, moi, je suis navrée. Aux États-Unis non plus, fait pas bon la retraite quand tu viens de la classe moyenne ou des classes populaires. Donc là, je pense que Olivier, vous fantasmez un peu la retraite par capitalisation.
Pour compléter ce que dit Barbara, je ne suis pas d'accord, mais presque. En fait, il y a la confrontation de deux mondes. Il y a le monde de ceux qui travaillent effectivement, qui se lèvent le matin, qui vont travailler physiquement dans un monde réel. Et puis, il y a une économie parallèle qui s'est créée, qui est le monde de ceux qui ont de l'argent, qui investissent, et qui vont tirer des revenus de l'inactivité en faisant travailler les autres. C'est un petit peu ce que nous explique Barbara. Et il y a un vrai débat. Alors, on ne va pas changer les modèles. Bien sûr que les deux vont coexister, mais c'est peut-être la répartition qui devrait un petit peu évoluer. C'est peut-être la répartition qui devrait un peu évoluer, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il vaut mieux avoir un peu d'argent que tu places et laisser les autres travailler. Ça rapporte beaucoup plus que travailler. Et l'ancien monde,
le travail.
L'ancien monde, c'est ceux qui se lèvent le matin pour travailler.
Juste un point, Mourad, le capitalisme, lorsqu'il s'est fondé au milieu du 19e, les sociétés par action, il y avait déjà cette partie financiarisée. On est bien d'accord. Sauf que le rentier, au 19e, 20e siècle, il était mal vu. Celui qui était bien vu, c'était celui justement qui fondait une entreprise, qui pouvait la société par action, c'est aussi de la financiarisation. Sauf qu'elle était gardée à sa place. C'est pas elle qui prenait le leadership sur le capitalisme productif.
Mais là, c'est ça que je dis. C'est inversé. C'est-à-dire que
ça s'est inversé pour notre plus grand. C'est ça la mondialisation et c'est ça le drame.
Oui, mais tu peux acheter en un quart de seconde la production mondiale d'aluminium de la planète et la revendre dans le quart de seconde de suivant et faire une plus-value sans avoir rien créé.
C'est ça qui nourrit un anticapitalisme primaire.
25 fois de propriétaire. Entre le moment où il part et le moment où il arrive.
Enfin, reconnaissez, si on a un problème avec les salaires en France, ce n'est pas la faute de Tavares. C'est parce que ses salaires.
Mais Tavares, c'est pas du salaire, c'est des primes de résultat.
Parce que ses salaires sont trop imposés. Un problème politique. Oui, et quand on entend certains politiques dire c'est scandaleux ce salaire, et on peut avoir un débat, ce sont les mêmes qui alourdissent chaque année les impôts des Français.
Donc
Début de notre débat, je disais pour moi, il faut pas qu'il y ait de limites, mais après c'est à l'homme lui-même de se fixer les limites. Mais il faut pas qu'il y ait de limites. Le politique.
On te dit tu vas toucher Jérôme 36 millions, tu vas dire non.
Mais je te dis, il faut pas qu'il y ait de limites. Moi, je suis désolé, mais ce qui me choque profondément, c'est de voir justement des politiques s'étonner de ça. C'est de voir des politiques montrer du doigt Carlos Tavares en disant oulala, pas beau, c'est trop ce qui touche, etc. Mais libre à eux, effectivement, à la fois de baisser la fiscalité, libre à eux d'augmenter les salaires de la fonction publique, libre à eux d'investir, etc.
Pas libre, il y a une réalité économique.
Surtout de libérer notre économie et de réussir. Le problème, c'est qu'on a des politiques qui échouent depuis des années. Et la réussite les bloque ou leur fait peur, quoi. C'est dramatique, ça.
Le problème essentiel, c'est qu'on est le pays le plus fiscalisé du monde, donc on est ceux qui payent le plus un service qui ne marche pas. À ce prix-là, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner.
Alors, on a posé la question ce matin, c'est 36,5 millions d'euros pour Carlos Tavares. Est-ce indécent ou mérité? Eh bien, c'est indécent pour 71,8%, mérité pour 28,2%. Oui, quand même 28.
Par contre, si c'était son entreprise et s'il avait pris des risques, on irait.
Ou pas, tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo, Jérôme Marty, le médecin généraliste et l'éditeur de bande dessinée, Mourad Boudjelal. On s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sens.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Main baladeuse, remarque sexiste, la vague MeToo qui déferle sur l'hôpital. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme ?
Non, bien sûr que non.
Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Et mon cher Mourad ?
Non plus.
Une libération de la parole partie de l'infectiologue Karine Lacombe qui a dénoncé la semaine dernière dans Paris Match les comportements de Patrick Peloux qu'elle qualifie de prédateur sexuel, des accusations réfutées hein, par le célèbre urgentiste qui lui assure n'avoir jamais agressé personne, même s'il reconnaît avoir été un peu grivois par le passé. Pourquoi on ne s'en fout pas, mon cher Jérôme ?
Mais parce qu'une fois de plus, ça permet l'ouverture des voies. Ça permet d'avoir la dimension de ce qui s'est passé pendant des années à l'hôpital.
Il y a eu des mauvais comportements à l'hôpital.
Ben, c'est un vase clos, l'hôpital. C'est, si tu veux, c'est une structure où tu vis les uns sur les autres, où tu es dans, mais
façon de parler,
bien sûr,
l'image,
mais façon de parler, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais où tu as une verticalité.
Et vous êtes beaucoup.
Où
les
tu as une verticalité, ou... où tu as une hiérarchie qui est extrêmement importante.
Oui.
Où t'as une pesanteur qui est extrêmement importante, où t'as des non-dits, où t'as, enfin, je veux dire, le monde hospitalier, c'est pas la société, quoi.
C'est plutôt une mini-société.
Et donc, il y avait une omerta depuis des années, cette omerta, elle explose. Et c'est important.
On parlait de l'esprit carabin.
Mais ça n'a rien à voir.
Non, mais l'esprit carabin, en gros, c'était, on fait des blagues grivoises et sexistes entre nous. Ça permet de mettre un recul par rapport à ce qu'on vit, parce que c'est vrai que c'est une profession où t'es confronté à la mort, à la détresse, à la maladie, et que ça permet d'avoir une soupape.
T'es pas obligé de mettre une main aux fesses parce que t'as besoin
Faut pas tout mélanger. La problématique, si tu veux, c'est que certains médecins ont profité de leur position, en ont usé et abusé vis-à-vis des gens qui travaillaient avec eux. Il y avait une omerta là-dessus.
C'est-à-dire que l'infirmière ne pouvait pas dénoncer le chef de service, en gros.
Mais parce qu'elle risquait de perdre son poste.
D'accord.
Très simplement.
Donc le MeToo hôpital.
Mais aussi les internes, les petites internes ou les petits internes, parce qu'à mon avis, il doit y avoir aussi des cas avec des hommes. C'est pas que les femmes non plus qui en sont victimes. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui peuvent en être victimes. Pas de la part de femmes, ou quoique, mais enfin surtout de la part d'autres hommes. Donc non, moi je pense que c'est très bien. Je pense qu'effectivement, tu as raison, Jérôme, c'est une mini-société. C'est une société qui vit en vase clos, le vase clos de l'hôpital, avec les rapports de domination. Des rapports de domination d'une société.
Et comme dans plein de domaines, pardon.
Et avec des chefs de service qui sont quand même très majoritairement masculins. Moi, je suis désolée, quand on fréquente un peu l'hôpital, on voit que les chefs de service, bah excusez-moi, c'est tous des hommes. Moi, il m'est arrivé à nombreuses reprises d'attendre dans des hôpitaux, tu regardes les plaques là où t'as les chefs de service, bah c'est que des hommes. Alors peut-être qu'effectivement va arriver toute une vague de femmes qui vont venir un petit peu féminiser ce pays.
Ça
s'est féminisé comme métier. Après, je pense qu'il va y avoir un temps de changement et que ce temps de changement s'ouvre par la libération de la parole des femmes, c'est bien. Après, attention, moi je reste très à cheval sur la question. Par exemple, sur Monsieur Peloux, j'attends les plaintes. Parce que c'est bien d'écrire des livres et de dénoncer des propos grivois. Moi, je veux des plaintes. Parce qu'à un moment donné, quand ça, on est juste dans la dénonciation de « il m'a fait ci, il m'a fait ça », mais en même temps, je ne porte pas plainte, moi, ça me gêne un petit peu.
Je suis d'accord avec toi. C'est important de rappeler que Patrick Peloux est présumé innocent. J'attends effectivement aussi les plaintes. Et puis, par extension, je ne voudrais pas que cette libération de la parole serve à certains à salir la médecine aussi. Et qu'on confonde une fois de plus les avec des. Les avec des. Parce que là, partout, et notamment sur les réseaux sociaux, on voit depuis quelques jours une attaque sur les médecins, sur le corps médical, et pas sur des médecins ou des membres du corps médical.
Mourad Boudjelal.
Ben, de l'hôpital, rapidement. C'est évident. Je dirais, vous avez des hommes et des femmes, quel que soit le milieu. Il y a forcément un rapport de séduction qui s'installe. À l'hôpital, il y a des adultères, il y a des couples qui se créent, harcèlement, c'est le mieux.
On a le droit de séduire.
Karine Lacombe, moi, j'ai juste un truc à dire. Je me méfie quand même parce que on a vu pendant la période Covid à quel point elle aimait les médias, elle aimait exister. Elle a une grande chute, on n'en entendait plus parler. Donc, je me méfie toujours de gens qui sont en recherche de nouvelles. Peut-être. Je me méfie, c'est tout, voilà.
Bon, les GG, Emmanuel Macron a-t-il parlé un peu trop vite ? Le plan C au Stade de France pour accueillir la cérémonie d'ouverture que le président a explicité hier matin sur RMC n'a en fait jamais été évoqué avec les organisateurs. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara ?
Non, on s'en fout pas, c'est rigolo.
Jérôme ?
Non, on s'en fout pas, non.
Mourad ?
Alors moi, je m'en fous des Jeux Olympiques.
Oh. Bon, alors, en cas de grosse... Ça me donne une idée les GG, écoutez, en cas de grosse menace terroriste, le président de la République a parlé hier pour la première fois de l'existence d'un plan B, même un plan C pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc, écoutez.
Il y a des plans B et même plan des plans C.
Oui.
Je vais être très clair avec vous.
Ouais.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France.
OK.
Une cérémonie donc réduite place du Trocadéro, voire au Stade de France. Sauf que cette dernière option dans l'enceinte sportive n'a jusqu'ici jamais été évoquée parmi les solutions de repli. Simplement parce que des compétitions ont lieu au Stade de France la veille de la cérémonie d'ouverture, mais aussi le lendemain. En fait, le chef de l'État aurait parlé de Stade de France à titre d'exemple, comme il aurait pu parler de n'importe quel autre endroit, selon les infos de BFM.
Franchement, on a l'impression qu'il gère les Jeux Olympiques, notre président, comme
gère la France.
Le maire d'un tout petit village fait le Corso Fleuri. Le Corso Fleuri d'Escanne-Crabbe, quoi.
Ah ben c'est ça, exactement.
Je veux dire, à un moment, quand même, quand tu dis, bon, on va avoir le plan B ou C, ça sera le Stade de France, et puis que t'as un conseiller qui va dire, non, il y a le rugby à 7 la veille. Ah, mais donc ça sera pas le Stade de France.
S'il y a besoin, le rugby à 7, il dégagera, je te le dis.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'autre part, il a fait le choix, le président de la République, de faire cette cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine. On l'a vu qu'on l'a réduit de plus en plus comme peau de chagrin.
On a réduit le nombre de spectateurs.
L'étiage, du nombre de spectateurs.
C'est toujours sur 6 km.
Mais là, vous imaginez le truc? C'est-à-dire que si tout d'un coup on disait, ah mais non, il y a une trop grande menace, on le fait ailleurs. Mais les terroristes ont gagné déjà, quoi. Les terroristes ont gagné. Ils t'ont mis la main là-dessus. Et après. Je veux dire, depuis le début, quand même, cette menace, elle existe. On est au plus haut niveau de la menace. Donc, on vient de la prendre. Non, mais justement. Donc, on vient de la prendre, il y avait un niveau au-dessus. Donc, si on est au plus haut niveau, ben, à ce moment-là, on dit, non, mais les gars, tout de suite, on arrête, on va le faire au Stade de France où les gens seront protégés.
Non,
c'est très confus, ce truc.
Je suis comme Mourad, je m'en fous complètement des JO. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça révèle une fois.
Ben là, on parle de la sécurité.
Oui, mais ce que ça révèle encore une fois des personnalités, d'un point de vue même psychologique, de ceux qui nous dirigent. Emmanuel Macron, c'est notre bon roi. Notre bon roi veut la cérémonie qui claque et qui fait beau. Notre bon roi dit ah bah allez les gars, allez Stade de France. Notre bon roi, moi c'est ça qui m'insupporte, c'est cette parole qui est à la fois légère et pleine de cette suffisance monarchique. Enfin franchement, je suis épuisée de l'entendre parler de tout et de rien. Cette interview là sur RMC, c'était passionnant. On a même eu la balle aux prisonniers à l'école. Enfin le type te parle de tout, de tous les petits détails. C'est exactement ça. C'est le maire du village.
Parce qu'il maîtrise tous les sujets, parce qu'il est trop fort. Parce qu'il est meilleur que nous. C'est notre président bien-aimé.
Voilà. C'est ça, c'est ce que je te dis. C'est notre grand leader.
Il est spécialiste de tout, de la balle aux prisonniers, de la sécurité. Il est capable de dire qu'il faudra 90 médailles, parce qu'il est aussi spécialiste du sport.
Et c'est le meilleur à la balle des prisonniers d'abord.
Bien sûr. S'il ne maîtrisait pas ses sujets, s'il ne rentrait pas justement dans les détails.
Mais
il
maîtrise
pas.
Moi, je peux vous dire une chose. Je l'avais dit dans le sujet. Pour avoir organisé des compétitions dans des enceintes à peu près équivalentes au Stade de France, à voir au Stade Vélodrome, des enceintes à 68-69 000 personnes, ça ne se fait pas en 48 heures.
Mais bien sûr.
Voilà. Allez, bon. Ça ne se fait pas en 48
heures. Les GG, ce ne sont pas un, mais deux héros français qui ont fait face à l'assaillant de Sydney qui a fait 6 morts au couteau vendredi dans un centre commercial. Est-ce qu'on s'en fout pas?
Ah bah non.
Barbara, Jérôme, Mourad. Une vidéo amateur a émergé sur les réseaux sociaux montrant un homme muni d'un poteau en train d'essayer de stopper l'assaillant en haut d'un escalator. Il s'agit donc d'un Français, Damien Guéraud, c'est son nom, 31 ans. Présenté comme le héros par les forces de l'ordre australiennes, de même que son ami, un autre Français. Oui, ils sont deux, Silas Despros, qui a tenté aussi de bloquer le tueur au couteau, Damien Guéraud, qui a été interviewé par la télé australienne. Écoutez.
Je n'ai pas vraiment eu peur. C'était quelque chose d'assez fou dans mon cerveau, une certaine adrénaline. Vous réalisez que le gars est en train de courir vers vous, vous ne réfléchissez pas. Ses yeux étaient vides. C'est comme s'il n'était pas là.
He wasn't there.
Voilà, l'Australie qui a même décidé d'offrir la citoyenneté à ce Français, Damien Guéraud. Alors, pourquoi on s'en fout pas, Barbara ?
Non, c'est important. C'est important que ces hommes, à chaque fois, ou ces femmes, soient mis en, en relief, en valeur, comme à Annecy, les personnes qui avaient à la fois secouru et empêché l'assaillant de continuer, le terroriste de continuer ses méfaits. Donc je pense que c'est important de les valoriser pour envoyer un signe au reste de la société. Des études de psychologie sociale ont montré que quand il y a un événement de ce type qui prend, ce qui saisit tout le monde d'effroi, il suffit qu'il y en ait un ou deux dans le métro, un ou deux dans la rue, un ou deux dans le centre commercial, qui se mettent à agir, et vous avez le reste du groupe qui peut en débloquer d'autres. Encore une fois, quand personne ne bouge, vous restez dans l'effroi qui s'impose à vous, et ça, c'est de la psychologie sociale qui le montre. Quand il y en a un ou deux qui se lèvent, il se passe quelque chose. Encore une fois, je le dis, je sais que c'est compliqué, mais il faut à un moment donné se sentir la capacité, alors après lui il a l'air baraqué, etc., mais il faut se sentir la capacité d'être celui qui se lève.
Il a dit j'ai pas réfléchi.
Non, mais voilà, c'est surtout, voilà. J'ai pas réfléchi, c'est pas la peine d'intellectualiser.
Exactement.
Le truc.
Non, c'est pas une question d'intellectualiser. Le problème, c'est que tu vois dans les transports en commun, par exemple, quand il y a un incident, si personne ne se lève, y compris les baraqués ou les pas baraqués, personne ne parle.
Oui, mais Mourad qui a dirigé un club de rugby, et moi, mon modeste moyen qui l'ai fait aussi, on te dira que le courage, c'est pas lié au fait d'être baraqué ou pas.
Comme que ah bah
il te le dit, c'est de l'instinct.
C'est souvent les femmes qui parlent.
Mais l'instinct, il se construit aussi avec ton parcours, parce que justement cette absence de réflexion par rapport au danger, ben c'est ton parcours qui va faire que tout d'un coup tu vas te lever ou pas te lever. Mais il faut le saluer parce qu'on a tous besoin de valeurs positives, et c'est extrêmement symbolique. C'est un Français. On décrit tellement la France comme un pays qui a peur, etc. Mais là, on a un Français qui se lève, et il faut vraiment le saluer.
Mais la France, c'est la
saluer, mais le cadeau, parce que il aura un passeport érythréen, je dirais, bon, c'est bien la nationalité australienne, mais bon, mec, il est français, le cadeau qu'il lui
donne. Il vit en Australie,
mais bon,
en étant français, c'est pas grand chose.
Imagine
que
l'Australien,
ça leur a pas
touché. Je rappellerai qu'on a fait la même chose, l'hypercachère, ce jeune employé a eu la nationalité française parce qu'il avait sauvé aussi des gens qui étaient à l'intérieur de l'hypercachère.
C'est ça. Mais là, c'est un Français en Australie. Je ne sais pas si un Australien qui se serait levé en France, on lui aurait dit on vous donne la citoyenneté française, le mec lui dit non,
j'en veux pas. C'est gentil, mais.
En tout cas, c'est un exemple à suivre parce que les occasions héroïques, hélas, ne vont pas manquer.
On essaye de l'avoir dans les GG.
Eh bien, ça serait bien qu'on lui passe un petit coup de fil, tiens.
Je vais partir à sa recherche.
Ouais. Quoi qu'il te plaît, il plaît à Anaïs.
Anaïs,
elle est en Australie.
J'aime le pays des kangourous.
Oui, bien sûr, oui.
Et les barbus.
Surtout les kangourous.
Il suffit que les mecs soient un peu baraqués, barbus, une bonne tête et ils fassent du surf.
Ça y est, là, voilà.
N'importe quoi.
Elle a les yeux bleus, ouais. Arrêtez.
Il ressemble à un acteur français. Il a joué dans Fifi
Infinity. Il ressemble à Bradley Cooper.
Est-ce que tu préfères Carlos Tavares ou ce jeune français?
On aurait pu donner 6 millions à lui. Voilà.
Allez, dans un instant.
Je suis pas vénale.
Dans un instant, faut-il plafonner le prix du carburant à 1,50€? Si vous êtes automobiliste, vous avez constaté que, de nouveau, le prix des carburants flambent. On n'est pas loin des 2€. Faut-il plafonner? C'est la proposition de l'association 40 millions d'automobilistes. A-t-elle raison? A tout de suite sur RMC Story.